9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, médias et culture, tous les médias et toutes les formes de culture au sens large. Vous retrouverez évidemment le journal des médias de Charles Decan, Bertrand Chamerois pour son écran de veille, puis Eva Rock pour son zapping du lendemain. Elle a les premières images, soyez avec nous, donc les premiers sons du documentaire événement Netflix consacré à Gims. Notre infomédia a 75 ans, oui, un magazine qui tient depuis 75 ans. C'est l'anniversaire que fête l'hebdomadaire Point de Vue. Nous serons avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction pour, si j'ose dire, des secrets anti-âge. Nos invités ensuite, et encore une célébration, l'animatrice Faustine Bollard pour la 500e de Ça commence aujourd'hui. C'était pas gagné, son émission de témoignage qui rebooste depuis 3 ans les après-midi de France 2, les audiences ont doublé. Enfin, Anne Goscinny, qui elle aussi a de la constance puisqu'elle publie le tome 5 du Monde de Lucrèce avec des illustrations de Catel. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour Charles.
Quel avenir pour Jacques Legros ? Les NMA n'auront pas lieu à Cannes, des chaînes locales s'allient pour la première fois et les Guignols préparent leur retour.
Et comme ça on va apprendre ce que sont les NMA. Mais d'abord, oui. Les audiences, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ?
Comme la semaine dernière et la semaine d'avant, France 2 a écrasé la concurrence hier soir avec un épisode d'Alex Hugo, cette fois en rediffusion. La série avec Samuel Le Bihan était suivie par 4,8 millions de téléspectateurs, soit 22,3% du public selon Médiamétrie. TF1 est deuxième avec la suite de la série américaine The Resident. Les deux épisodes affichent une moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs au compteur pour une part d'audience de 15,6%. Sans surprise aussi, comme chaque semaine, The Resident est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29%. De part d'audience. Et c'est M6 qui prend la troisième position avec le quatrième et dernier volet de la saga Indiana Jones. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal a fait vibrer 3,1 millions de personnes pour 15,4% de part d'audience.
Culture Média. Et on débute ce journal des médias comme hier par le départ de Jean-Pierre Pernaut.
Voilà, mardi matin, le journaliste, vous vous en souvenez, tout le monde le sait, a annoncé qu'il quitterait le fauteuil du 13h de TF1 à la fin de l'année, plus précisément le 18 décembre. Une inconnue de taille demeure, a priori pour encore quelques jours, le nom de son remplaçant ou de sa remplaçante. Mais une chose est en revanche assurée, on va y arriver, Jacques Legros, le joker officiel de Jean-Pierre Pernaut, lui ne quittera pas ses fonctions. TF1 a confirmé au site Pure Média que la question ne se pose et même pas, Jacques Legros continuera d'assurer l'intérim quand le prochain ou la prochaine titulaire du fauteuil du 13h partira en vacances. Cette année, pendant que Jean-Pierre Pernaut était resté chez lui à cause du coronavirus, Jacques Legros avait assuré l'intérim pendant plus de 2 mois.
Donc si on fait attention aux mots, s'il reste joker, ça veut dire qu'il ne sera pas titulaire.
Voilà, exactement. C'est le deuxième nom qui disparaît de la longue liste de successeurs potentiels à Jean-Pierre Pernaut. Mercredi, Thierry Tulier avait exclu Darius Rochebain, nouvelle recrue de LCI, et Jacques Legros est donc lui aussi éliminé de la course. Depuis, on entend avec insistance les noms de Thomas Soto, Christophe Delay ou encore Dominique Lagrou sans père. A priori, la question a déjà été tranchée. Ne reste plus qu'à attendre que TF1 l'officialise.
Et on reste sur TF1 avec une nouvelle conséquence du Covid.
Alors, pas un jour ou presque sans qu'on parle des conséquences de la pandémie sur les médias. Émissions annulées, retardées ou même suspendues en plein tournage. Rares sont les programmes à passer au travers du filet et ce jeudi ne fait pas exception. Cette fois, c'est une cérémonie qui pâtit de la situation actuelle. On a appris hier que les NRJ Music Awards, les NMA donc pour les intimes, auraient lieu à Paris, plus précisément à la scène musicale. Il s'agira de la 22e édition de ce grand show musical diffusé chaque année sur TF1 et de la toute première à ne pas avoir lieu au Palais des Festivals de Cannes.
Mais alors qu'est-ce qui posait problème spécifiquement à Cannes ?
C'est vrai qu'on peut se poser la question vu que la nouvelle saison de Ninja Warrior est justement en train d'être tournée sur le port de Cannes. Mais les situations sont un peu différentes. Ninja Warrior est tourné en extérieur. On a du mal à imaginer à quel endroit installer ce décor monumental. Ce n'est pas le cas des NMA qui peuvent facilement être organisés dans une autre salle de spectacle. Et entre les équipes de production, les artistes et leurs accompagnants, les NMA font voyager près de 1000 personnes qui sont tous pris en charge pour TF1. Là où les candidats de Ninja Warrior, ils gèrent eux-mêmes leurs déplacements et ils sont moins nombreux. Dans un communiqué, TF1 avance une volonté de diminuer au maximum les déplacements donc des artistes, de leurs accompagnants et des équipes de production. Au passage, dans ce même communiqué, on apprend que la cérémonie est décalée. Elle était prévue le 7 novembre, elle aura finalement lieu le 5 décembre et la chaîne annonce d'ores et déjà que le format de la cérémonie sera lui aussi différent.
Et là, on sent peut-être venir le coup. Est-ce que la cérémonie pourrait rester à Paris les années suivantes ?
Alors, c'est pas du tout la volonté de TF1. Dans ce communiqué, la chaîne indique avoir déjà re-signé pour 2 éditions supplémentaires avec la mairie de Cannes. Le show était déjà assuré d'être organisé au Palais des Festivals en 2021. Il devrait donc l'être en 2022 et en 2023, évidemment si la situation sanitaire évolue favorablement.
Et puis du nouveau sur Europe 1.fr.
Bonjour, c'est Christophe Ondonat.
Si vous aimez l'effet divers et que vous n'avez pas envie d'attendre 14 heures pour écouter Ondelat raconte, Europe 1 lance aujourd'hui Radio Ondelat. C'est une web radio disponible sur le site de la station qui diffuse en continu les épisodes de l'émission animée par Christophe Ondelat.
Et c'est Christophe qui donne l'heure.
Et on attend aussi Radio Culture Média. Au-delà des faits divers, donc vous le savez, l'émission propose aussi les récits de parcours singuliers, des portraits de personnalités hors normes, de Raymond Poulidor à Coco Chanel, le tout raconté par Christophe Ondelat. Radio Ondelat est donc disponible gratuitement sur Europe 1.fr, mais aussi sur les enceintes connectées Alexa d'Amazon et sur les Google Home, ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute en ligne.
Direction les États-Unis maintenant, où la chaîne Fox va enfin diffuser l'adaptation des Guignols de l'info.
Ça fait 2 ans que la chaîne Fox a lancé l'adaptation de la pastille humoristique culte de Canal+. En juin 2018, vous en souvenez, les Guignols venaient tirer leur révérence sur la chaîne cryptée après 3 années très compliquées, quand le projet d'une adaptation a été annoncé. Puis, plus rien pendant 1 an. En 2019, Fox annonce avoir confié les rênes de l'émission à Robert Smigel, qui est un ancien de l'émission satirique Saturday Night Live, qui est aussi expert en marionnettes, et rebelote, silence total, jusqu'à hier. On n'y croyait plus trop, mais ça y est, Fox a annoncé qu'elle diffuserait le 1er octobre prochain Let's Be Real, une émission spéciale d'une demi-heure, dans laquelle des marionnettes réagiront à l'actualité, et la chaîne a même diffusé un teaser.
It's gonna be tremendous and huge, huge.
Get off my lawn.
Vous avez bien sûr reconnu Donald Trump. Ces guignols américains parleront donc évidemment politique, d'autant que cette émission test, donc ce sera un one-shot, comme on dit, aux États-Unis, aura lieu 2 jours après le premier débat qui opposera Donald Trump et Joe Biden. Mais il y sera aussi question de pop culture, et à la différence de la version française, des stars en chair et en os pourraient aussi participer au sketch.
Et on termine ce journal par une première, des chaînes locales françaises s'associent autour d'un même programme.
Ça commence lundi prochain, 7 chaînes locales vont pour la première fois diffuser le même programme à la même heure. Alors ce générique, c'est celui de la telenovela brésilienne Totalement Diva, qui est inédite à la télé en France. Elle arrive le 21 septembre à 20h sur IDF1, la chaîne francilienne, mais pas seulement, le même jour et à la même heure, 6 autres chaînes françaises dégaineront elles aussi la série. Il y aura Wéo Nord-Pas-de-Calais, Wéo Picardie, la chaîne bretonne TBO, mais aussi TB Sud, TV Tour Val-de-Loire et TV7 Bordeaux. Totalement Diva, c'est donc une série brésilienne en 130 épisodes, elle date de 2017. On y suit Elisa, une jeune femme harcelée sexuellement. Attention, son histoire, elle est pas drôle, Philippe, je vous vois sourire, mais c'est pas drôle du tout. Elle est harcelée sexuellement par son beau-père et donc elle décide de s'enfuir pour aller s'installer en ville. Là-bas, elle est agressée, on lui vole tout ce qu'elle a, elle est contrainte de vivre à la rue. Mais rassurez-vous, tout bascule quand elle rencontre le jeune et beau Jonatas. Je sais déjà ce que vous ferez lundi à 20h.
Voilà, et j'imagine que Bertrand Chameroy fera exactement la même chose et peut-être nous en parlera le mardi. Merci beaucoup Charles Decan. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est un anniversaire qui n'a pas pu être fêté, comme tant d'autres cette année. Le 25 mars dernier, l'hebdomadaire Point de Vue devait fêter ses 75 ans. Et puis, est arrivé ce qui est arrivé, écrit Adélaïne de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction dans son édito. Pandémie, confinement, la moitié du monde à l'arrêt, nous avons dû ranger gâteaux, bougies et robes de soirée. Qu'à cela ne tienne, gâteaux, bougies et robes de soirée sont de sortie en ce jeudi. Bonjour Adélaïne de Clermont-Tonnerre.
Bonjour.
Et bon anniversaire. Bonjour Jérôme Caron.
Bonjour.
Bon anniversaire. 75 ans, ça se fête. 75 ans, pas les vôtres, vous les faites à vous deux. Juste un mot pour vous, Jérôme Caron. Vous êtes grand reporter à Point de Vue depuis combien de temps?
Je suis à Point de Vue depuis plus de 25 ans.
Un point de vocabulaire, dans l'imagerie journalistique, le terme grand reporter, ça évoque le reporter de guerre avec les patogas, le téléobjectif, le gilet pare-balles. Qu'est-ce qu'on appelle grand reporter quand on travaille autour des têtes couronnées ?
C'est une manière, c'est un titre qui permet en fait de choisir soi-même ses sujets, d'aller un petit peu plus loin que les reporters à qui on confie des sujets. L'avantage du grand reporter, c'est qu'il peut avoir l'initiative sur ses propres sujets en fait.
Je me tourne vers vous, Adélaïne de Clermont-Tonnerre. 75 ans, c'est pas rien. On va parler d'histoire. Comment est né ce magazine Point de Vue ?
Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori sur Point de Vue et c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est-à-dire que Point de Vue a été fondé par des résistants. Ils étaient à Londres pendant les bombardements et ils se sont dit, et si on faisait un life à la française ? Et ces résistants, c'était pas n'importe qui, parce qu'il y avait Marcel Blanchet, par exemple, qui était le fondateur de Publicis. Il y avait le général Cornillon Molinier. Il y avait un monsieur qui s'appelait Simon Rachet, mais dont le nom était Lazare Rachlein, et qui a ensuite ensuite créé la LICRA, donc qui est la fondation,
contre le racisme.
Voilà, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc c'est pas du tout ce qu'on imagine. Eux, ils voulaient vraiment une presse très contemporaine qui ferait la place belle aux photos. D'ailleurs, les plus grands photographes ont travaillé pour nous. Mmh. Ça va d'un Robert Capa à Willy Ronis, d'un Jacques-Henri Lartigue. Il y a des gens aussi totalement inattendus. Une Agnès Varda, par exemple. La première fois qu'on parle d'Agnès Varda, c'est dans Point de vue.
Et puis, moi, je me souviens, quand j'étais petit, Point de vue s'appelait Point de vue Image du Monde. Et pareil, Image du Monde, ça a été fondé par deux résistants.
Exactement. Et c'est encore plus tôt. Quelques mois plus tôt, Image du Monde avec ce même appétit pour finalement aller découvrir l'ailleurs dans Point de vue Image du Monde qui fusionnera en 48, ce sont deux concurrents au départ. Dans ces deux titres, il y a vraiment une volonté de découverte. On a des couvertures par exemple consacrées aux Martiens, on a des couvertures en Amazonie, au Mato Grosso, on a des couvertures avec Haroun Taziev, mais aussi des charmantes starlettes, parce qu'il faut savoir que Point de vue a été créé par amour, parce que justement Lazare, lui, s'était dit que s'il avait un journal, il pourrait draguer, il aurait accès à toutes les starlettes, notamment à une qu'il aimait vraiment beaucoup, qui était Martine Carol.
Et alors,
je crois que ça l'a aidé.
juste un mot, donc Point de vue n'a pas été fondé par des royalistes nostalgiques, mais par des résistants juifs, francs-maçons, militants antiracistes. Pourtant, c'est parfois l'image qu'on a du journal.
On a une idée qu'à Point de vue, parce qu'on s'intéresse aux têtes couronnées, on est tous en train de manger des macarons, en caressant des caniches et en écoutant du clavecin.
Exactement.
C'est pas tout à fait. En fait, c'est pas tout à fait ça. Mais d'abord parce que c'est très ethnocentré comme vision. Ce qu'il faut voir, c'est que la moitié, par exemple, des pays d'Europe sont des monarchies. Donc la monarchie, c'est pas daté. La monarchie, c'est juste pas notre système français. Et encore, les Français ont un rapport extrêmement ambigu avec la monarchie, parce qu'on a la présidence la plus monarchique qui soit, et quand la reine d'Angleterre vient à Paris, les Français l'acclament en disant « Vive la reine au marché aux fleurs » avec Anne Hidalgo qui lui tend un parapluie.
Donc, voilà. Et les mariages princiers britanniques, ça fait ici des scores de football. Les premiers édito, je le précise, et après on change de sujet, ont été écrits par un jeune philosophe qui va devenir grand, Raymond Aron, qui a écrit dans votre journal. Qu'est-ce que vous avez prévu, c'est un anniversaire, je l'ai dit, pour ses 75 ans? C'est quoi la nouvelle allure de Point de vue?
Alors la nouvelle allure de Point de vue, c'est surtout un travail sur l'aspect contemporain du journal. Ouais. On a travaillé avec...
Là je vais dire un mot, la couverture. Oui. Franchement, j'ai cru, s'il n'y avait pas écrit Point de vue, j'ai cru que c'était l'équipe magazine. Si
ça
on peut voir la une.
Ça pouvait faire un peu Tour de France, ouais. Mais en mer, parce que en fait on a eu la chance d'avoir une exclusivité et un entretien exclusif avec Charlène de Monaco qui a fait quelque chose, honnêtement une performance, c'est-à-dire qu'elle a traversé en waterbike la Méditerranée. Alors la Méditerranée, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas un lac, c'est une mer vraiment périlleuse, importante, et elle a donc fait une traversée en plus de 22 heures et on a eu accès à ce moment assez exceptionnel.
Quoi d'autre dans ce numéro?
Dans ce numéro, beaucoup de choses. On a encore ce goût de l'ailleurs avec un grand reportage sur le roi et la reine du Bhoutan. On trouve qu'à un moment où les gens réfléchissent à changer de vie, on a la moitié des Français qui après le confinement se disent qu'ils vont aller élever des brebis dans le Larzac, et bien on a l'exemple d'une royauté qui accorde plus d'importance aux produits, au bonheur national brut qu'au produit national brut. Et on a été voir ce roi et cette reine assez magique. Il y a aussi, on a fait le coming out des lecteurs célèbres de Point de vue, parce que Point de vue, contrairement à ce qu'on dit, ne se lit pas forcément chez le coiffeur ou chez le dentiste. Et il y a des gens extrêmement reluisants qui aiment
qu'on
Point de vue.
Qu'on n'attendait pas, alors qui par exemple?
Écoutez, ça va de Peter Marino, le grand architecte, à Jean-Christophe Ruffin, en passant par Jules, le dessinateur, mais aussi...
Jules qui dessine, qui fait une petite BD.
Oui, et en fait, plein d'artistes se sont inspirés de Point de vue, par exemple Valérie Belin aussi.
Jérôme Caron, grand reporter à Point de vue, on l'a dit, sur quel sujet vous avez travaillé pour ce numéro anniversaire?
Alors, précisément, sur ce numéro-là, et là, j'ai pas beaucoup... Il s'est trouvé que j'étais pas en cours sur ce numéro-là, mais on a participé tous ensemble à la recherche de témoignages. On a lancé les gens qu'on fréquente depuis maintenant d'un certain nombre d'années, qui nous connaissent, qui nous disent qu'ils nous aiment, même si, comme le disait Adélaïde, les gens le disent souvent, on lit chez le coiffeur, mais ils le lisent toutes les semaines. Donc, soit ils vont chez le coiffeur toutes les semaines, ils le lisent vraiment. Mais bon, l'image est parfois un petit peu délicate de Point de vue, mais en fait, c'est un journal extrêmement ouvert. La moitié du journal est consacrée à autre chose que les royautés. Nous allons dans des endroits d'exception, nous allons dans des endroits où personne ne va. Marie-Hulde Lorieux-Prévost, journaliste à Pointe-Vue, a ouvert pour la première fois l'appartement de Jacques Grange, qui est un décorateur extrêmement connu, avec Pierre Passebon, qui est un galeriste également extrêmement connu. Il y a énormément d'informations différentes. Quand on parle de Pointe-Vue à l'extérieur, ou quand les gens nous le racontent, ils nous disent « mais en fait, nous partons ailleurs, c'est un journal qui donne du bonheur, c'est un journal qui donne de la joie et une forme d'élégance. »
Est-ce que c'est endogamie ? Comment ça se passe quand vous allez chez les têtes couronnées, roi ou reine de je ne sais pas quel pays ? Est-ce que vous êtes leurs copains ou est-ce qu'ils vous traitent un peu à distance comme n'importe quel journaliste ?
Nous sommes des journalistes avant tout. Donc ils ont un rapport, pas de méfiance, de confiance naturelle puisqu'on suit leurs événements et leur vie depuis de nombreuses années. Mais en même temps, il y a une forme de distance naturelle qui se pratique avec n'importe qui que vous pouvez interviewer dans ce métier. Vous n'êtes pas le meilleur ami du prince Emmanuel Filiberto de Savoie. Il vous respecte, il vous connaît, il sera peut-être un petit peu plus sympathique parce qu'il a de la sympathie pour votre journal ou le média pour lequel vous travaillez, mais il ne va pas vous taper sur l'épaule et vous n'allez pas forcément boire une bière après avec lui. Ce qui n'empêche pas d'être charmant et agréable et de passer souvent beaucoup de temps avec nous, de prendre le temps de nous offrir des moments d'exception, des moments étonnants.
Pour parler du fondateur de Point de Vue, vous avez le 06 des princesses.
On en a pas mal de 06, mais on ne les donne pas. Même pour ceux qui sont très amoureux, parce qu'il y en a qui ont fait des grandes déclarations d'amour aux princesses aussi dans nos lecteurs.
D'accord, il faut rester avec nous. Je ne savais pas qu'on allait lancer ce sujet, mais il m'intéresse beaucoup. A tout de suite, Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Jérôme Caron de Point de Vue, le magazine qui fête ses 75 ans. A tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, c'est la directrice de la rédaction de Point de Vue qui fête cette semaine ses 75 ans. Journal créé en 44 à Londres par des résistants. Face à vous, avec nous, Jérôme Caron, vous êtes grand reporter à Point de Vue. Vous parliez d'anecdotes de 06 et de princesse. Et vous m'avez dit pendant la pause, j'ai une anecdote à vous raconter.
En fait, j'ai participé au bal des débutantes il y a un très grand nombre d'années de cela. Point de Vue avait relancé le bal des débutantes qui avait été lancé il y a très nombreuses années par Jacques Chazot. Et donc, on m'avait adjoint, j'étais cavalier au bal des débutantes, et on m'avait adjoint une princesse qui était la princesse Alténaïde Monténégro, qui est donc la fille du roi du Monténégro, le roi Nicolas de Monténégro. C'était une jeune fille charmante, en études de lettres à la Sorbonne. Les princesses étaient habillées par des grands couturiers. Elle avait une très très belle robe. Et puis, on faisait une présentation avant le début du bal, devant Madame la Comtesse de Paris, Bernadette Chirac, la directrice du journal à l'époque, qui était Laure Boulay de la Meurthe. Et au moment de se présenter, tout le monde, elle avance doucement devant le grand salon de l'hôtel intercontinental. Et je vois tout le monde fixer ses pieds. Et en fait, sous sa robe de soirée extraordinairement belle, en soie claire, elle avait des Doc Martens coquets, noirs, pas cirés. Et donc, il existe une photo où on voit Madame la Comtesse de Paris, Bernadette Chirac, les yeux rivés sur les chaussures avec un petit sourire en coin. Et moi, j'ai un petit peu transpiré à ce moment-là parce que j'étais jeune et je voulais faire de mon mieux. Et voilà. Et donc, ça fait partie des petites anecdotes étonnantes qu'on a pu avoir dans ce journal.
Et alors, si je vous suis, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, c'est ce que vous voulez montrer dans Point de Vue. C'est on met des belles robes et on met des Doc Martens.
Oui.
Et tout va ensemble. Et on désacralise et on dépoussière.
Et ça fait longtemps, en fait, que c'est l'ADN de Point de Vue, parce qu'on aime l'éclectisme, on aime quand c'est ouvert. En fait, on aime toutes les personnalités qui ont un destin, qui ont un tempérament, qui sont flamboyants. On a envie de gens qui déménagent, en fait. Mmh. Et c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire, notre ligne éditoriale, c'est aller chercher ceux qui nous inspirent, et on ne nie rien, mais on se concentre sur ce qui est beau, sur ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait avancer.
Dans l'édito, vous évoquez, Adélaïde, les belles exclusivités que vous aviez prévues de sortir en mars, mais il y a eu le Covid. C'était quoi les belles exclus que vous aviez eu remettre sous le boisseau ?
Alors, sincèrement, comme elles sont encore en cours, je suis désolée, mais on ne désespère pas du tout de les récupérer.
Non, mais si c'est un nouveau couple, peut-être qu'ils sont déjà plus ensemble.
Ah non, c'était pas un couple, mais c'était trois très très belles séries. Mais là, franchement, je travaille tellement dessus que je peux pas. C'est pas de la cachotterie, mais là, je peux pas vous les donner.
Le confinement, vous avez continué à paraître ?
Le confinement, on a continué à paraître. On a eu deux numéros qui n'ont pas pu paraître. D'abord parce qu'il y a eu un problème de Covid dans la rédaction. Ensuite, parce qu'il y a eu des énormes problèmes de distribution. On a été victime, comme 70% de la presse française, du cas Prestalis.
On dira un mot de Prestalis.
Mais on a continué à publier le journal dès qu'on a pu. On a continué à être d'ailleurs très acheté et on remercie vraiment nos lecteurs parce qu'on a eu des mots d'amour de nos lecteurs, mais absolument incroyables. Et ça, je veux dire, ce lien, ça nous a porté.
Combien vous vendez habituellement et quelles sont vos meilleures ventes? D'abord, c'est quoi votre étiage normal? Les ventes de point de vue, c'est
alors,
quoi?
Les ventes de point de vue, quand on compte les abonnés, on est à 200 000 exemplaires à peu près par semaine. On est à 140 000 sinon France. On a une grosse partie de notre lectorat à l'étranger. Ça, c'est assez peu connu. En
français.
En français,
il n'y a pas d'édition internationale.
Non, il n'y a pas d'édition internationale. On est l'un des magazines de langue française le plus vendu à l'export, avec Elle et Paris Match, régulièrement devant Elle et Paris Match. Et une de nos fiertés et de nos agacements, c'est qu'il y a une contrefaçon de point de vue au Japon qui ressort régulièrement parce que les Japonais sont fous de point de vue, donc ils ont fait un peu abusivement leur point de vue Japon.
Et les princesses sont vos meilleures ventes ?
Alors étonnamment, les princesses sont des très bonnes ventes, mais ce ne sont pas forcément nos meilleures ventes. C'est-à-dire
ah bon
que fidèle à l'origine du journal, finalement les rois et les reines viennent assez tardivement comme ADN, même si c'est notre ADN maintenant. On a la couverture de Johnny, la disparition de Johnny, mais aussi Céline Dion, Michel Legrand, Trier-Veller, on a eu des très très grandes ventes sur des couvertures atypiques, même Carlos, sa disparition a été une vente absolument incroyable, alors qu'a priori c'est pas forcément un personnage gotha.
Ouais, votre record de vente, si je suis bien informé, 31 août 97, la mort de Diana, 850 000 exemplaires vendus. Le prochain grand événement parmi les têtes couronnées, vous savez lequel est-ce?
Alors, il y avait beaucoup de mariages, pareil, ouais, qui étaient prévus. Là, les pauvres, ça devient un peu plus compliqué. Donc, les grands événements en moment de Covid sont plus complexes. Mais ce qui est très intéressant, du coup, c'est que ça force aussi les monarchies à se moderniser à très, très grands pas. Et par exemple, on a un article sur à quel point la reine est devenue la reine des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle fait des Zooms, elle fait des chats, alors qu'au départ, on l'entendait parler deux fois par an.
Elle fait des Zooms, la reine.
La reine fait des Zooms,
d'accord,
toute la famille.
Elle n'est quand même pas
zooms
sur Tinder encore.
Écoutez, peut-être, on le souhaite, on le souhaite.
Jérôme Caron, c'est un de vos sujets de prédilection, la reine d'Angleterre.
Oui, j'ai écrit un livre sur la reine d'Angleterre il y a quelques années maintenant, et c'est un personnage étonnant, c'est un personnage qui représente l'histoire et qui reste d'une modernité absolue. C'est très compliqué d'être, faire partie d'une institution, la monarchie britannique, d'être comme sous un blog, et en même temps de devoir accompagner l'évolution du monde qui n'a jamais autant changé ces 100 dernières années. Par exemple, la reine Elisabeth a pris son premier avion, elle avait une vingtaine d'années, et aujourd'hui elle a une page Facebook, elle fait des zooms, elle passe sur Twitter régulièrement, donc c'est quelqu'un qui, à un âge très très avancé, continue à suivre la modernité et à essayer d'être au plus proche de ces sujets.
Et c'est également une des personnes les mieux protégées au monde. Quel accès vous avez, par exemple, à elle et à la monarchie britannique ?
Alors, les accès à la monarchie britannique sont souvent sur l'entourage, en fait, puisque la reine ne donne jamais d'interview, ou très très peu, de manière très très substantielle sur des sujets...
Mais pour des photos, puisque...
Sur des sujets précis. Ouais. Les photos sont données par le service de communication de la reine. Mmh. Après, nous avons des contacts avec son entourage proche, les gens qui ont travaillé avec elle, qui travaille avec elle, qui, sous le sceau du secret, nous donne des informations. On essaye d'avancer petit à petit comme ça. Mais c'est des gens qui se protègent. Elle doit être complètement neutre. C'est quelqu'un qui ne peut pas donner son avis. C'est la difficulté d'être monarque, en fait. Donc, il faut toujours absolument rester le plus silencieux et le plus distant possible tout en étant présent.
D'un tout petit mot, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, on évoquait le sujet. Où en êtes-vous avec Presstalis ? Je le rappelle, c'était un distributeur. Il distribue les trois quarts de la presse française. Il s'est retrouvé en cessation de paiement. Il vous doit de l'argent. Il doit de l'argent à beaucoup, beaucoup de journaux.
Il doit de l'argent à beaucoup de journaux. Nous, ils ont failli nous faire plonger, sincèrement. Ils nous doivent 3 millions d'euros qu'on ne reverra jamais. On a encore aussi de l'argent qui, là, devrait être récupéré, mais ça fait des semaines qu'on se bat pour le récupérer. Ça nous a fait énormément de mal. Et on se bat encore parce qu'on nous a imposé une taxe de 2,25% sur notre chiffre d'affaires. Donc, on a déposé, avec la coopérative des éditeurs indépendants, un recours au Conseil d'État. On espère être entendu.
Dans ces éditeurs, il y a notamment Sopress qui édite Sofoot ou Society, et même le journal de Mickey. C'est très,
exactement,
très large et œcuménique, et vous avez raison de vous grouper. Merci beaucoup, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Vous êtes la directrice de la rédaction de Point de Vue. Jérôme Caron, grand reporter dans ce magazine. Le numéro 3761 célèbre les 75 ans du magazine et il est en kiosque. Merci d'avoir été avec nous.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Faustine Bollaert.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous présentez tous les jours depuis 3 saisons, c'est la 4e qui démarre sur France 2, une émission de témoignages, ça commence aujourd'hui. Qui l'eût cru que ça allait durer
moi,
comme ça avec cette audience? Vous y croyez ?
Et France 2.
Les audiences, elles sont comment ? Dites, elles sont bonnes les audiences.
Elles sont excellentes les audiences. Alors évidemment, là en ce moment, il y a le Tour de France, donc mais on résiste très bien. Et écoutez, on est parti à 6 il y a 4 ans et aujourd'hui, on est bientôt à, enfin, on est souvent à 15 quoi.
Exact.
Donc ouais.
Ouais. Plus d'un million, 1,2 million, 1,3 million parfois de spectateurs. Il y a 3 ans, vous aviez démarré à combien ?
On était à 6,5 quoi.
La première semaine, 580 000, ouais. 6,3%. Vous étiez dans quel état à l'époque ?
Confiante.
Mais quelle menteuse ! Téléstar, 5 octobre 2017. Et vous dites, j'ai tellement mal vécu les audiences les 3 premières semaines, je me liquéfiais tous les matins. C'est-à-dire que j'étais malade à 9h02, parce que les audiences tombent à 9h02. Je regardais, ça conditionnait ma journée. Tous les matins, entre 9h et 10h, j'étais injoignable. Et après seulement, je digérais.
Je ne me souviens plus. Comme quoi, vous savez quoi ? On fait un tri sélectif. On veut se souvenir que des bonnes choses.
Même la mémoire fait du déni.
Exactement.
Voilà. Donc vous avez remonté une sacrée pente. La 500e de Ça commence aujourd'hui, en fait, vous célébrer ce chiffre toute la semaine. Il y a une programmation spéciale. Vous avez en tête de tout ce qu'il y a dans cette semaine
entre... Une programmation spéciale, mais c'est surtout la grande fête de demain, parce qu'on on va proposer une émission en direct avec beaucoup d'invités, où on va essayer de faire beaucoup de surprises. On va revenir sur des histoires très fortes de Ça commence aujourd'hui. Et cette semaine était un petit peu spéciale aussi, parce qu'on a proposé des sujets forts, mais c'est surtout demain à 13h50 en direct que là, on va vraiment célébrer cette 500e.
On va en parler, on entend la musique de votre générique. Le lundi, le thème de lundi, ça démarrait très très fort, vraiment. Le thème Amour en famille, ils ont bravé les interdits. Et vous le dites vous-même en préambule de l'émission, vous dites aujourd'hui, nous allons franchir les limites de la loi et de la morale. Pourquoi ce choix pour cette émission de lundi ?
Vous savez, c'est surtout des histoires qui nous conduisent à créer des émissions. C'est-à-dire que nos journalistes rencontrent énormément de gens. Et dans les rencontres, il y a aussi des personnes qui nous inspirent des thèmes. Il s'avère que nous avons en effet rencontré des personnes qui avaient des liens particuliers, qui avaient construit une histoire d'amour avec des gens de leur famille. Et ça nous a inspiré une émission, et une émission très forte qui prête à réflexion. Parce que notre émission n'est pas là pour juger, mais pour montrer toute la société telle qu'elle est. Et après, les gens se font leur opinion à la maison.
Alors, j'ai vu l'émission, j'avoue que c'est très très fort. Ça commence par Rosalie, elle a une histoire d'amour avec son demi-frère. Ouais. Elle a été adoptée, donc biologiquement, ils n'ont pas de lien. Elle a été adoptée à l'âge de 8 mois.
Je suis contente que vous m'en parliez.
Sa maman adoptive, c'est la mère biologique de Franck. Ils ont 19 ans d'écart, ils se sont rencontrés. Elle avait 14 ans, lui 33. Il était déjà marié, il a 2 enfants. Ce qui frappe le plus, c'est qu'à l'époque, elle a 14 ans. C'est-à-dire, elle est en dessous de la majorité sexuelle, autrement dit, il risque la prison. Et là, vous dites dans l'émission, nous ne sommes pas là pour juger.
On n'est pas là pour juger, même si vous pouvez me dire, donner la parole à ces gens, c'est cautionner. Je n'aurais jamais reçu aujourd'hui dans mon émission quelqu'un qui a une histoire d'amour à 14 ans. Évidemment, c'est un crime aujourd'hui d'avoir une relation sexuelle avec une femme de 14 ans. Néanmoins, quand vous connaissez l'entièreté de cette histoire, et c'est pour ça qu'on a décidé de la mettre en lumière, c'est que ces gens-là aujourd'hui sont ensemble depuis 20 ans, ils ont 4 enfants, et à l'époque, il y a une décision de justice qui a validé cette histoire d'amour. C'est-à-dire qu'ils sont partis en cavale. Moi aussi, j'ai été très choquée. D'ailleurs, je le dis sur le plateau,
bien
que
sûr.
Je suis choquée.
On va entendre la cavale. Que parce que Rosalie, elle va habiter chez Franck avec l'accord des parents.
Ouais.
Ce qui se passe, c'est qu'après le collège, elle rentre chez lui. Donc, elle est au collège. Et un jour, les gendarmes viennent la chercher au collège s'ils ont eu vent de l'histoire. Elle reconnaît les faits. Franck également reconnaît les faits. Elle est placée en foyer, mais elle n'arrête pas de fuguer. Et le jour de ses 15 ans, elle décide de fuguer avec une copine. Elle sort du foyer et devant le foyer, dans la voiture, il y avait Franck qui l'attendait et elle vous raconte la suite.
Je monte dans la voiture et il me dit on va où tu veux.
Donc vous êtes partis quoi ? C'est une cavale en fait, vous êtes partis en cavale tous les deux.
Pendant 17 jours.
17 jours ? Mais vous êtes allés où pendant 17 jours ?
La première chose qu'on a fait, on a été voir ses enfants. Alors là, il faut savoir qu'au moment où je monte dans la voiture, on va vivre et on le sait, lui et moi, on va vivre comme si demain n'existait pas. C'est-à-dire qu'on a conscience que la justice est derrière nous. On a conscience que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc tout va être intense.
Et alors ils ont ressemblé à quoi ces 17 jours ?
Alors là par contre, là l'interdit est venu pimenter par contre pour les 17 jours. Parce que du coup on vit tout plus fort.
Elle a un petit accent parce qu'elle vient de Tahiti. Et alors très impressionnant Faustine Bollaert, je ne vais pas tout raconter, mais à ce moment-là du récit, arrive sur le plateau Franck.
Évidemment.
Comment vous arrivez à convaincre les gens de venir parler ? Combien vous devez en contacter pour avoir ces témoignages aussi puissants sur votre plateau ?
En l'occurrence, ils sont demandeurs. Ils ont envie qu'on comprenne leur histoire. Ils ont envie qu'on comprenne leur famille. Ils ont envie qu'on arrête de les juger, justement. Évidemment, moi, quand je découvre histoire sur le papier...
Je vous interromps parce que c'est très, très ambivalent. C'est le cœur du sujet. C'est que quand vous leur demandez à tous, pas seulement à eux deux, mais à d'autres, comment vous percevez le regard des autres, ils sont quasiment tous au bord des larmes.
Bien sûr.
Donc ils souffrent du regard des autres ou ils ont envie de se montrer devant les
Cette
autres.
Cette émission s'appelle Ça commence aujourd'hui parce que les gens viennent et qu'ils racontent, ils laissent quelques bagages chez nous parce que justement ils en ont marre du jugement. On peut comprendre à quel point cette histoire d'amour a été jugée, elle a même été jugée par la justice. Je pense que ce couple-là est ensemble encore une fois depuis 20 ans. Ils sont usés du regard des autres et ils profitent de notre émission pour raconter leur histoire dans la longueur et expliquer toutes les émotions qui ont pu les animer et nous on leur laisse le temps de ça. Après je comprends qu'il y a des gens qui soient choqués devant leur télé. Et moi, j'aurais jamais donné la parole à ces gens, encore une fois, s'ils n'avaient pas, si je ne connaissais pas l'histoire dans son entièreté. Moi, quand je reçois mon conducteur et qu'évidemment, je découvre l'histoire d'amour entre ce couple, je suis choquée. La femme que je suis, la mère que je suis, est choquée. Mais je ne peux pas nier que quand j'écoute l'histoire dans sa globalité, elle pose des questions. Et c'est pour ça que mon émission existe, c'est pour poser des questions sur la société.
Autre couple, il s'appelle Sandy et Fernand. Ils sont cousins germains. C'est le fils de la sœur de la maman. Voilà. Ils sont mariés. Ils se connaissaient pas, ils se sont découverts à l'âge de 20 ans quand elle avait 20 ans, ils ne s'étaient jamais rencontrés parce qu'ils habitaient dans des villes différentes et le plus fou c'est que Sandy, la fille, est tombée amoureuse ou pas loin, rien qu'en voyant la photo du cousin. Mais ce qui m'a intéressé, on est dans notre sujet, c'est les réactions de la famille, d'où Faustine Bollaert, votre question.
Mais cette famille aujourd'hui, vous l'avez sacrifiée sur l'autel de votre amour, c'est-à-dire que il vous manque.
Mais surtout que moi, je l'ai côtoyé déjà pas avant.
Ouais, tu ne côtoyais pas trop. Ah d'accord, donc vous, c'est pas finalement
alors,
un gros deuil.
Du coup, je me dis, j'ai rien perdu. Mm. Et je m'en fiche complètement, en fait.
Et tout à l'heure, vous disiez, mon mari, vous êtes marié.
Oui, on s'est marié.
Légalement,
oui.
C'est possible de se marier.
Oui, c'est pas la preuve.
Bien sûr.
Mais qui est venu à votre mariage?
Les deux témoins.
C'est tout. C'est tout.
Ça suffit.
Waouh, personne de la famille.
Oui, mais je pense que s'ils viennent sur mon plateau, c'est justement pour parler à travers la caméra à leur famille. Demain, vous allez voir, pour la 500e, on reçoit beaucoup de gens qui se sont réconciliés avec leurs parents, qui ont tendu la main avec leur famille. Enfin, leur famille leur a tendu la main parce qu'ils les ont entendus chez nous. Et qu'avec la bienveillance avec laquelle je les interview, ils ont fini par les comprendre. Et je pense que ce couple-là était motivé par ça.
Demain, ce sera en direct. On est en direct. Vous restez avec nous. Faustine Bollaert, Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Faustine Bollaert qui fête toute la semaine la 500e de Ça commence aujourd'hui. C'est tous les jours, du lundi au vendredi à 13h55, on va dire à 14h sur France 2. Et demain, vous serez en direct avec des nouvelles de vos invités. Alors, vous le disiez, vous avez de la bienveillance en plateau et c'est vrai. Exemple, je reste sur l'émission de lundi. Sur
ces couples.
C'est-à-dire que j'ai travaillé sur l'émission. Voilà, et je l'ai regardé évidemment en prenant des notes et en relevant des codes. C'est comme ça qu'on travaille. Parfois, il y a moins de pathos que ce qu'on vient de faire entendre.
C'est
exemple,
pas pathos, je peux pas vous laisser dire ça.
Ah bon ?
Ah non, je trouve qu'il n'y a absolument pas de pathos. Il y a de l'émotion, il y a en effet, voilà, il y a de l'émotion réelle, de la tristesse,
il y a de la souffrance.
Oui, mais qui veut dire souffrance ne veut pas dire pathos. Pathos, il y a un côté, je trouve, qui juge, justement.
D'accord, vous-même, vous ne jugez pas. Nadège, vous ne la jugez pas non plus. Elle est tombée amoureuse de son cousin, là encore, qu'elle ne connaissait pas. Elle le rencontre à 38 ans, elle en a maintenant 44. Elle ne l'avait vu, elle aussi, qu'en photo. Elle était en train de se séparer de son mari et elle avait pris des très, très bonnes résolutions.
Quand j'ai quitté mon mari, je m'étais un petit peu idéalisé le style d'homme que je voulais avoir dans ma vie.
Et alors, vous vouliez quoi comme genre d'homme?
Déjà, ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'il soit barbu.
D'accord.
Je ne voulais pas qu'il ait de lunettes. Je ne voulais pas qu'il soit fonctionnaire. Je ne voulais pas qu'il fume et je ne voulais pas qu'il aime le foot. Bon.
Alors, donc on imagine que votre ex-mari était donc fonctionnaire, barbu, avec des lunettes et il aimait le foot. On l'embrasse.
Alors, vous l'embrassez. Le plus rigolo, c'est que le cousin, il remplit tous les critères.
Exactement.
Sauf qu'il n'aime pas le foot, il aime le rugby. Mais sinon, il est grand, il clope,
il
a de la barbe.
Il est barbu, il a des lunettes et il a de la barbe. C'était charmant. Ce couple est charmant.
Demain, l'émission est en direct. C'est toujours en direct le vendredi.
Toujours en direct le vendredi.
Pour quelle raison ?
Parce qu'on ne veut pas faire que des sujets un petit peu francs. On veut quand même coller à l'actu, pouvoir être réactif. La semaine dernière, on a proposé une émission sur les attentats du 5 janvier où on a reçu Maryse Wolinski, un membre du GIGN qui est intervenu dans l'imprimerie. Donc, c'est important pour nous de pouvoir être une émission pas que froide, en fait, pouvoir parler des sujets de société à chaud.
Je veux dire, ce qui m'a étonné, c'est qu'habituellement, à la télévision, les émissions enregistrées, c'est le vendredi pour que les gens puissent partir en week-end.
Bah nous, c'est l'inverse, parce que justement, on s'est dit, on va être là quand les autres s'en vont.
Voilà, et c'est ce qui est arrivé à Quotidien, normalement, qui n'a pas pu répondre vendredi au bad buzz sur son plateau, les propos de Nicolas Sarkozy, sur
parce
les nègres et les singes. Ils étaient enregistrés.
Voilà
pourquoi ils n'ont pas pu répondre le vendredi à ce qu'avait dit Sarkozy le jeudi. Il y aura un Facebook Live après votre émission.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va y voir, un bêtisier?
Non, pas de bêtisier, peut-être. Non. on va juste répondre. En fait, vous savez, pendant le confinement, on a installé une émission sur Instagram. On pouvait avoir ce lien direct avec les téléspectateurs. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc, le Facebook Live, c'est juste une manière de poursuivre ça. Les gens peuvent me poser aussi des questions. Donc, on sera tous réunis. On pourra être à la disposition des internautes.
Qui est votre public ? Il est féminin ou il est très féminin ?
Non, il est féminin, il est très masculin. Vous savez, récemment, on a fait une émission sur les espions, en donnant la parole à un ancien du KGB et à un ancien de la DGSE. Je peux vous dire que le public était très masculin. On prépare une émission aussi sur les membres du GIGN. Le public est masculin et le public est aussi très jeune parce que notre émission cartonne sur les réseaux sociaux et les extraits sont... vraiment, il y a des millions de vues sur certains extraits. Donc, il y a beaucoup de jeunes, moi, qui m'arrêtent dans la rue et qui sont fans de cette émission, contre toute attente, j'avoue.
Je vais vous dire le sens de ma question, c'est quand vous avez démarré trois saisons, j'avais noté, c'était l'automne 2017, vous disiez non pas bonjour à tous et à toutes, mais juste bonjour à toutes.
C'est vrai ?
Vous saluiez même pas les garçons.
Ah oui, voilà. C'est une erreur de ma part.
Et là, j'ai remarqué quelque chose dans l'intitulé de l'émission de mardi. Mardi, triplés, jumelles, séparées à la naissance, elles se retrouvent des années après. Il n'y a que des triplés ES, il n'y a que des filles dans l'émission.
C'est vrai. Après, vous
et
savez,
je me suis dit, peut-être que c'est la cible.
Non,
on va pas
c'est
se mentir.
Pas, alors, c'est pas une question de cible, c'est aussi les gens qui viennent sur notre plateau. Les femmes ont plus accès à leurs émotions et parlent plus facilement d'elles. Donc, c'est vrai que c'est juste ça, en fait. Quand on cherche nos témoins, forcément, on tombe sur plus de femmes. Et je peux vous dire qu'on a aussi beaucoup d'hommes qui viennent. Et surtout beaucoup d'hommes qui nous regardent. Donc on fait attention de ne jamais les exclure, justement. C'est très important.
Qu'est-ce qui a changé ? Déjà, trois saisons, la quatrième démarre en ce moment. Qu'est-ce qui a changé dans les thèmes abordés en trois ans ? Quels thèmes sont apparus ? Et inversement, quelles thématiques abordées ont un peu disparu ?
L'éventail est beaucoup plus large, et le spectre est beaucoup plus large. Donc pour moi, c'est passionnant, parce que je peux animer, je peux accoucher. Enfin, voilà, c'est extrêmement valorisant pour un animateur. Mais par exemple, il y a des sujets aujourd'hui qu'on n'aurait jamais fait à l'époque. La semaine dernière, j'ai enregistré une émission où je donne la parole à des femmes, d'hommes politiques.
Oui. Elle n'est pas passée encore ?
Non, elle n'est pas passée encore.
Et ça, c'est vraiment
Nadia Copé, la femme de Jean-François Copé. On a l'ex-femme de Michel Rocard. On a aussi la femme de Jean-Christophe Lagarde. On a cette jeune femme qui est Rachel Garrido, exactement, et qui nous raconte
Raquel
Garrido, et qui nous raconte, qui nous font vraiment rentrer un peu dans l'intimité de leur histoire d'amour et leur histoire de couple.
Qui est en couple avec un député de la France Insoumise.
Exactement.
Alexis Corbière, si je me souviens bien.
Exactement. Voilà. Et je peux vous dire qu'elles sont, elles lèvent le voile sur leur propre histoire. Elles ont envie de raconter comment elles ont vécu et comment elles vivent encore le métier de leur mari, le métier atypique. Et c'est complètement à contre-courant de ce qu'on fait d'habitude.
La saison passée, vous présentiez un prime time sur France 3, s'appelait La Boîte à Secrets. Est-ce que l'émission va être présente à l'antenne cette année ?
Le 9 octobre, elle revient. On en enregistre deux la semaine prochaine. Et c'est une émission qui va prendre un peu un virage. On avait beaucoup d'émotions. On était aussi dans l'accouchement. Là, on va être plus dans le divertissement, dans la fête, mais en partageant encore des secrets de nos invités. Et je peux vous dire que la programmation était là. Pour la première, on va recevoir Kenji Girac, Serge Lama et Véronique Jeannot. Pour la deuxième, on aura Amir, aussi Vincent Niclot et Anne Roumanoff. Et je peux vous dire qu'on va avoir du très lourd et dans les boîtes et sur le plateau.
Et de l'accouchement, c'est votre terme. Merci beaucoup, Faustine Bollard.
Merci à vous, Philippe.
La 500e de Ça commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est aussi demain.
Et on sera là pour la millième, la 1500e.
Voilà, il ne faut jamais faire pareil sur l'avenir. Et demain, vous serez en direct. Merci d'avoir été avec
vous,
nous en
Merci
direct dans Culture Média qui continue. Il y aura le rappel des titres de 10h. Et puis, on va recevoir Eva Rock pour le zapping du lendemain d'un artiste qui se cache tout le temps derrière ses lunettes noires. Il y a du scoop. Chameroy, pour son écran de veille, il a regardé Gulli, donc 5 ou 6 ans après l'accouchement. Anne Goscinny, enfin, la fille de René Goscinny. C'est le papa d'Astérix. Elle vient pour la sortie du 5e volume de son livre jeunesse, Le Monde de Lucrèce. Et puis dans les indispensables, on va partir à Bourges pour un festival de musique qui est maintenu. C'est assez rare pour être signalé. Et puis un documentaire édifiant sur les géants du web. Quel programme ? À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.